Chapitre 67. Là où l'argent coule. Il règne une ambiance tendue au commissariat. Certains comparent les derniers événements avec le meurtre des policiers à Alexander en 1999, ou à la bestialité de Josef Heck 2 ans plus tôt. Le drame qui s'est déroulé dans l'archipel fait la une des journaux. On a même surnommé le tueur « le boucher de la police ». Les journalistes se perdent en conjectures et pressent leurs sources dans la police pour obtenir des informations. Jonalina et Sagabauer doivent faire un point sur la situation avec le chef de la Rikskrim, Carlos Eliasson, le chef de la CEPO, Werner Zanden, l'inspecteur divisionnaire Peter Neslund, le directeur des opérations, Benny Rubin, ainsi que Nathan Pollock et Tommy Koufoued de la Rijksmoordkommissionen. Ils traversent le couloir en discutant de leur entretien avec Penelope Fernandez.
« Je crois qu'elle va bientôt parler, » dit Yona.
« Je n'en suis pas si sûr. Elle pourrait tout aussi bien se fermer comme une huître, » répond Saga.
Anya Larsson se tient devant la porte de son bureau et observe Yona et Saga s'approcher avec un regard triste. Lorsque, sans remarquer le cœur qu'elle forme avec ses doigts, Yona l'aperçoit, il lui sourit et lui fait un signe de la main avant d'entrer dans la salle de conférence. Il referme la porte derrière eux et salue discrètement ceux qui ont déjà pris place autour de la table. Saga prend la parole.
« J'aimerais commencer par dire que tous les soupçons qui pesaient sur les extrémistes de gauche ont été écartés. »
Werner chuchote quelque chose à Nathan Pollock.
« N'est-ce pas ?»
dit Saga en haussant le ton. Werner lève les yeux et hoche la tête.
« Oui, c'est correct. »
Il se racle la gorge.
« Reprenons depuis le début, »
dit Carlos à Saga.
« Oui. Penelope Fernandez est militante pour la paix et présidente de la SFSF. Elle vit avec Björn Almskog, barman au club de Bazer, sur Medborgarplatsen. Elle habite au 3 Sankt Paulsgatan, et lui, au 47 Pontoniergatan. Penelope Fernandez avait scotché une photo sur la porte vitrée entre son salon et l'entrée.
Sagabauer projette une copie de la photo sur l'écran qui couvre l'un des murs de la pièce. La photo a été prise au printemps 2008 à Francfort.
On reconnaît Palmkrona, dit Carlos.
Oui, tout à fait, dit Saga en désignant les 3 autres personnes. Voici Pontus Salman, directeur du fabricant d'armes Silencia Defense. Et l'homme que vous voyez ici est Raphaël Guidi en personne. C'est un célèbre marchand d'armes. Et dans le milieu, il est connu sous le nom de l'Archange. Il fait surtout des affaires en Afrique et au Moyen-Orient.
Et la femme, c'est pour le dessert?
Demande Benny Rubin.
Elle s'appelle Agathe Aladji,
dit Saga sans le moindre sourire.
C'est la conseillère militaire du gouvernement soudanais. Elle est très proche du président Omar el-Béchir.
À cette information, Benny tape violemment sur la table du plat de la main et lorsque Pollock lui décoche un regard agacé, il lui montre les dents.
« Est-ce que ce type de réunion est normal ?»
demande Carlos.
« Je dirais que oui. Il discutait d'une importante livraison de munitions fabriquées sous licence pour l'armée soudanaise. Cette affaire pouvait être considérée comme pertinente du point de vue de la politique de sécurité et aurait sans doute été conclue si la Cour pénale internationale de La Haye n'avait pas émis un mandat d'arrêt contre le président el-Béchir.
« C'était en 2009, non ?» demande Pollock. « Ça m'a complètement échappé, » dit Carlos.
« On n'en a pas beaucoup parlé dans la presse, » dit Saga. « Mais le président a été inculpé pour son implication directe dans des actes de torture, viol et génocide au Darfour. »
Et ils n'ont pas conclu de marché, constate Carlos.
Non.
Et la photo, qu'est-ce qu'elle a de si particulier?
Rien, demande Werner. Penelope Fernandez ne semblait pas la considérer comme dangereuse puisqu'elle l'a accrochée sur sa porte, dit Saga.
En même temps, elle n'est pas sans importance puisqu'elle l'expose, commente Carlos.
On n'en sait rien. C'est peut-être simplement un rappel de l'état du monde, spécule Saga. En bas de l'échelle, certains luttent pour la paix, tandis que les puissants trinquent au champagne.
Nous espérons pouvoir bientôt interroger Penelope Fernandez, mais nous sommes presque certains que Björn Almskog a agi à son insu, poursuit Yona. Peut-être en sait-il davantage sur la photo que Pénélope, ou bien ne faisait-il que tenter sa chance. Quoi qu'il en soit, le 2 juin, Björn utilise une adresse e-mail anonyme depuis un cybercafé pour faire chanter Karl Palmkrona. Cet e-mail marque le début d'une brève correspondance. Björn lui écrit qu'il sait que la photo est gênante et qu'il est prêt à lui vendre contre la somme de 1 million de couronnes.
Extorsion classique, marmonne Pollock. Björn emploie seulement le mot gênant, poursuit Saga. Et nous supposons qu'il n'a pas compris avec quel sérieux Palmkrona allait prendre les choses.
Björn pense contrôler la situation, dit Yona. Il est donc très surpris lorsque Palmkrona le met en garde. En effet, il lui explique avec le plus grand sérieux qu'il ignore ce dans quoi il s'est engagé, puis il implore de lui rendre la photo avant qu'il ne soit trop tard.
Yona boit une gorgée d'eau.
Quel ton emploie-t-il ? Demande Nathan Pollock. Tu dis qu'il est sérieux, mais est-il agressif ?
Yona secoue la tête en leur distribuant des copies de la correspondance.
Pour moi, l'échange n'est pas agressif.
Tommy Koufoued lit les emails, hoche la tête et note quelque chose.
Que se passe-t-il ensuite?
Avant de rentrer chez elle le mercredi, la femme de ménage aide Palmkrona à accrocher un fil à linge au plafond.
Peter pousse un petit rire.
Pourquoi?
Parce qu'il avait subi une opération du dos et n'y était pas parvenu lui-même, répond Saga.
Dans ce cas, dit Carlos en souriant. Le lendemain, vers l'heure du déjeuner, on suppose que c'est après le passage de la poste, poursuit Yona, Palmkrona appelle un numéro à Bordeaux et...
On n'a pas pu davantage tracer l'appel, ajoute Saga.
Il a très bien pu joindre un standard téléphonique et son appel a été transféré vers un autre pays, un autre continent ou revenir en Suède, dit Yona. Il s'agit d'un appel très court, 43 secondes. Peut-être laisse-t-il seulement un message. Il se peut qu'il parle de la photo et du chantage de Björn en s'attendant à obtenir de l'aide.
Puisque, quelques minutes plus tard, la femme de ménage de Palmkrona appelle Taxi Stockholm et commande un taxi pour 14 heures au nom de Palmkrona et à destination de l'aéroport d'Arlanda. Exactement 1h15 après cette brève conversation téléphonique, le téléphone sonne. Palmkrona a déjà enfilé son manteau et ses souliers, mais prend tout de même le temps de répondre. L'appel vient de Bordeaux, du numéro qu'il avait contacté. La conversation dure 2 minutes. Palmkrona envoie un dernier courrier à Björn. Maintenant, c'est trop tard. Nous allons tous les deux mourir. Il libère sa femme de ménage qui paie le taxi et rentre ensuite chez elle. Sans ôter son manteau, Karl Palmkrona entre dans le petit salon, pose sa mallette au sol, grimpe dessus et se pend.
Un silence s'installe autour de la table.
Mais ce n'est pas fini, dit lentement Yona. L'appel de Palmkrona semble avoir déclenché quelque chose. Un tueur à gages a été envoyé pour effacer toutes les traces et s'occuper de la photo. Combien de fois, je veux dire en Suède, a-t-on affaire à un tueur à gages ?
Dit Carlos d'une voix sceptique.
Il doit y avoir énormément d'argent en jeu pour que de telles mesures soient prises.
Yona le regarde inexpressif.
Oui. Palmkrona a probablement lu l'email de Björn à la personne qui l'a appelé. Il contenait son numéro de compte, dit Saga.
Et il n'est pas particulièrement difficile de retrouver quelqu'un grâce à son numéro de compte, marmonne Werner. À peu près au moment où Palmkrona se suicide, Björn Almskog se connecte sur sa boîte email anonyme depuis le cybercafé Dreambow, poursuit Yona. Il voit qu'il a reçu 2 réponses de Karl Palmkrona.
Il espère évidemment que Palmkrona va payer 1 million pour la photo, dit Saga.
Mais le premier email est une mise en garde, et dans le second, Palmkrona écrit qu'il est déjà trop tard, qu'ils vont tous les deux mourir. Et c'est le cas.
On ne peut qu'imaginer à quel point Björn a dû prendre peur, dit Saga. Ce n'est pas vraiment un habitué du chantage, il a simplement tenté sa chance lorsque l'occasion s'est présentée.
Que fait-il ?
Peter les regarde la bouche ouverte. Carlos lui sert un peu d'eau.
Björn se ravise et décide d'envoyer la photo à Palmkrona. Il veut en finir avec tout ça.
Mais Palmkrona est déjà mort lorsque Björn lui écrit pour expliquer qu'il laisse tomber et qu'il va lui envoyer la photo, dit Yona.
Le problème, c'est que la photo est toujours chez Pénélope, dit Saga, et elle ne sait rien du chantage.
Il doit récupérer la photo sans qu'elle le découvre, dit Tommy Koufoued en hochant la tête.
On ignore comment il comptait expliquer à Pénélope que la photo avait disparu, poursuit Saga. Il a sans doute agi dans la précipitation en espérant que tout ça se tasserait pendant qu'il serait en mer.
Yona se lève et observe la rue par la fenêtre. Une femme porte un enfant dans ses bras et pousse une poussette où sont entassés des cartons de nourriture.
Le lendemain matin, Pénélope se rend en taxi au studio télé où elle doit participer à un débat, poursuit Saga. À peine est-elle partie que Björn s'introduit dans son appartement, arrache la photo, prend le métro de la station Slussen jusqu'à Centralen, achète une enveloppe et un timbre dans un kiosque à journaux, poste la lettre, court jusqu'au cybercafé et écrit un dernier email à Palmkrona pour lui dire qu'il lui a envoyé la photo. Björn se rend ensuite à son appartement, récupère ses bagages ainsi que ceux de Pénélope avant de rejoindre son bateau qui l'attend au club nautique de Lundgolmen. Lorsque Pénélope a terminé, elle prend le métro à la station Karlaplan. On suppose qu'elle va directement à Hornstull et fait le reste du chemin à pied.
À ce moment-là, le tueur a déjà fouillé l'appartement de Björn et a allumé le feu qui a ravagé tout l'étage. Mais j'ai vérifié le rapport. L'expert en incendie a conclu que le feu s'était déclaré à cause d'un fer à repasser oublié dans l'appartement voisin,
objecte Peter.
C'est sans doute le cas, dit Yona.
Tout comme une explosion au gaz aurait été la cause d'un incendie dans l'appartement de Pénélope, dit Saga.
Le but du tueur à gages était sans doute d'effacer toutes les traces, poursuit Yona. Comme il n'a pas trouvé la photo dans l'appartement de Björn, il y a mis le feu et l'a suivi jusqu'à son bateau.
Pour y chercher la photo, complète Saga, et pour tuer Björn et Pénélope en faisant passer ses meurtres pour un accident de bateau.
Mais il ignorait que la sœur de Pénélope, Viola, avait décidé à la dernière minute de les rejoindre sur le bateau.
Yona pense un instant à la jeune femme, à son visage innocent et vulnérable, à la trace rouge sur sa poitrine.
Je pense qu'ils ont accosté sur une île au pertuis de Jungfrufjärden près de Dalarö, reprend Yona. Pénélope a dû quitter le bateau avant que le tueur n'arrive. Lorsqu'il monte à bord, il noie Viola dans une bassine en pensant qu'il s'agit de Pénélope. Puis, il place le corps sur la couchette de la cabine avant. En attendant Björn, il fouille le bateau à la recherche de la photo. Et comme elle reste introuvable, il met en place un système pour faire exploser le bateau. Le rapport d'Erikson est posé devant vous. On ne sait pas avec certitude ce qui s'est passé ensuite, mais Björn et Pénélope réussissent à lui échapper.
Et abandonnent le bateau où se trouve toujours le corps de Viola Fernandez.
On ignore comment ils s'enfuient, mais le lundi, ils ont rejoint l'île de Kimende.
Le visage de Benny se durcit.
Chez Ossian Wallenberg? Il était vachement bien, celui-là, mais faut dire qu'il était mal assorti à ce pays.
Carlos se racle délicatement la gorge et se resserre du café.
Lorsque le tueur comprend qu'il les a perdus, il va chercher la photo chez Pénélope, poursuit Yona imperturbable. Il est interrompu par notre arrivée, et ce n'est qu'à ce moment, lorsque je dois me battre avec lui, que je comprends qu'il s'agit d'un tueur à gages.
Il a sans doute accès à nos systèmes et peut écouter nos communications sur le réseau Raquel, dit Saga.
C'est comme ça qu'il a compris que Björn et Pénélope étaient à Kimende,
demande Peter.
On l'ignore, répond Yona.
En tout cas, il est très rapide. Il est probablement retourné à Dalarö pour trouver Pénélope juste après avoir été interrompu par Yona et Erikson.
Autrement dit, il est déjà sur les lieux lorsque je prends contact avec la police maritime,
dit Peter en se penchant sur la table pour rassembler un paquet de feuilles.
Et ensuite ?
Demande Carlos.
On vient juste de commencer à reconstituer les événements, dit Peter. Mais on peut d'ores et déjà dire qu'il a réussi à détourner le bateau de la police maritime et qu'il a tué Lennart Johansson et Göran Sjödin. Il se dirige ensuite vers Kimende, achève Björn Almskog et Ossian Wallenberg, fait sauter le bateau, prend Pénélope en chasse et provoque le crash de l'hélicoptère de sauvetage.
Et disparaît, soupire Carlos.
Mais grâce à la réactivité de Peter Neslund, Pénélope Fernandez est encore en vie,
dit Yona en voyant Pollock se tourner vers Peter d'un air intrigué.
L'enchaînement des événements doit encore être étudié en détail,
dit Peter d'un ton maussade, qui toutefois ne masque pas le contentement qu'a provoqué le compliment de Yona.
Ça va prendre un sacré bout de temps,
dit Koufoued en souriant sans joie.
Et la photo alors? Elle doit tout de même signifier quelque chose,
dit Carlos.
C'est juste une foutue photo,
soupire Peter.
Sept personnes en sont mortes, dit Yona d'un ton grave. Et d'autres vont sans doute mourir si l'on ne...
Il s'interrompt et regarde par la fenêtre.
La photo est peut-être comme une serrure dont on doit obtenir la clé,
dit-il.
Quelle clé ?
Demande Peter.
Le photographe, dit Saga.
Pénélope Fernandez, c'est elle le photographe ?
Demande Pollock.
Ça expliquerait qu'elle soit poursuivie,
s'exclame Carlos un peu trop fort.
Certes,
dit Saga d'une voix hésitante.
Mais,
dit Carlos.
Qu'est-ce qui nous indique le contraire ?
Demande Benny. Yona ne croit pas que Pénélope soit le photographe.
Mais enfin, merde !
S'écrie Peter. Carlos a les mâchoires serrées. Il fixe la table et se garde de tout commentaire. Pénélope est en état de choc. À l'heure qu'il est, nous ne connaissons pas encore le rôle qu'elle a joué dans tout ça, dit Saga. Nathan Pollock s'éclaircit la voix et distribue des photocopies du testament de Karl Palmkrona.
Palmkrona est détenteur d'un compte en banque sur l'île de Jersey. Un paradis fiscal,
dit Peter Neslund en extirpant du tabac chiqué de sa bouche. Il essuie son pouce contre la table sans noter le regard las de Carlos.
Est-ce qu'on peut voir le solde de son compte ?
Demande Werner.
Il n'y a aucun moyen d'accéder à ces transactions,
dit Yona.
Mais selon son propre testament, il s'agit de 9 millions d'euros.
On ne sait pas encore comment il a pu amasser de telles sommes,
dit Pollock.
On a contacté la Transparency International, la principale organisation civile de lutte contre la corruption. Mais ils n'ont rien sur Karl Palmkrona ni sur d'autres membres de l'ISP.
Dans son testament, il demande que tous ses biens soient légués à un garçon de 16 ans, Stéphane Bergvist. C'est son fils, mais Palmkrona ne l'a jamais rencontré. Il est mort dans un incendie à Westeros seulement 3 jours après le suicide de Palmkrona.
Il n'aura jamais su qui était son père biologique,
ajoute Saga.
Selon le rapport de l'enquête préliminaire, il s'agit d'un accident,
dit Carlos.
Oui, mais est-ce que l'un d'entre nous croit réellement qu'il s'agit d'une simple coïncidence ?
Demande Yona.
Ça me paraît impossible,
dit Carlos.
Mais c'est complètement dingue,
dit Peter les joues en feu.
Pourquoi quelqu'un tuerait son fils alors qu'il ne l'a jamais rencontré ?
C'est quoi cette histoire ?
Demande Werner.
Palmkrona est le dénominateur commun,
dit Yona en désignant l'homme souriant sur la photo.
Il est sur le cliché, a été victime de chantage, on l'a retrouvé pendu, son fils meurt et il a 9 millions d'euros sur un compte.
L'argent est un élément intéressant, dit Saga.
Mais il n'a pas d'autre famille que Stéphane, pas de centre d'intérêt, n'a pas d'investissement en cours, d'action ou...
Si cette somme se trouve bel et bien sur son compte en banque, ses revenus doivent être liés d'une façon ou d'une autre à son statut de directeur général de l'ISP,
dit Yona.
Il a pu se livrer à des délits d'initié grâce à des hommes de paille,
dit Werner.
Ou accepter des pots de vin,
dit Saga.
Follow the money, chuchote Pollock.
On doit interroger Axel Rissen, c'est le successeur de Palmkrona,
dit Yona en se levant.
S'il y a des éléments qui prêtent à confusion dans les décisions de Palmkrona, il a déjà dû s'en rendre compte.